VOA Afrique, les infos à Washington.
Heureux de vous retrouver pour de nouveaux développements de votre actualité. Eric Manilakiza en votre compagnie. Il est 11h à Lomé, 14h à Nairobi et 7h ici à Washington. Bienvenue à tous. Au Togo, la foule massive rassemblée dans le centre de Lomé hier soir, longtemps après le coucher du soleil, a finalement été dispersée en fin de soirée sous les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Les manifestants exigeaient le départ du président Faure Gnassingbé et la mise en place de réformes constitutionnelles. Les manifestants, qui se disaient déterminés à rester toute la nuit, se sont finalement éparpillés dans la capitale. Kai Lawson est en ligne à Lomé. Vous êtes l'œil de VOA Afrique sur place. Kai, le calme est revenu, n'est-ce pas?
Oui, Eric, après la dispersion des manifestants dans la nuit de jeudi à vendredi, une partie de Lomé se réveille ce vendredi matin par des détonations de picotements de gaz lacrymogène. Et oui, le quartier des réputés chefs de l'opposition essaie de faire de la résistance. Tout le quartier est bouclé. Les accès qui y mènent sont difficiles d'accès, notamment l'avenue Augustine de Souza et les boulevards Félix Houphouët-Boigny. Les jeunes y ont posé des barricades et brûlé des pneus. Dans les autres parties de la ville, la vie a repris son cours normal. Même si la circulation est fluide et quelques boutiques non ouvertes, n'importe où quadrille la ville, des checkpoints sont installés sur certaines artères, les forces de l'ordre sont visibles aux différents carrefours, des militaires sont sortis leur prêter main forte pour assurer la sécurité de Lomé. La censure de l'Internet est toujours en vigueur. Beaucoup de journalistes vont à la frontière ghanéenne pour se connecter à l'Internet mobile sur le réseau du Ghana. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Merci Kai Lawson pour toutes ces précisions. Nous allons y revenir au courant de la journée. Les aveux du président de la commission électorale kényane, Afula Chebukati, admet l'existence de défaillances dans la conduite de l'élection présidentielle du 8 août, invalidée par la justice. Abdulrahman Dia.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nous nous excusons de cette erreur technique. Je vous disais donc que le président de la commission électorale kényane a avoué qu'il y a eu de défaillances dans la conduite de l'élection présidentielle qui a été annulée. Abdulrahman Dia pour les détails.
Dans une lettre interne envoyée à son directeur exécutif et divulguée hier par la presse kényane, le président de la commission électorale liste toute une série d'erreurs commises par son équipe dans l'organisation des élections. M. Chebukati s'étonne notamment que certains procès-verbaux de bureaux de vote ne présentaient pas les signes d'authentification prévus par la commission. Il se demande aussi pourquoi les téléphones satellitaires achetés au coût total de 6,7 millions d'euros pour couvrir les bureaux de vote de localités reculées n'ont pas fonctionné. M. Chebukati s'interroge enfin sur le fait qu'on compte avec un identifiant et un mot de passe à son nom, créé à son insu, ait été utilisé près de 10 000 fois pour accéder au système informatique de la commission électorale. Saisie par l'opposant Raila Odinga, la Cour suprême du Kenya avait invalidé le 1er septembre la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d'irrégularités révélées dans la transmission des résultats. Une nouvelle date pour le scrutin est fixée au 17 octobre.
Abdulrahman Dia, l'annulation de cette présidentielle a relancé le débat sur la pertinence du recours à des systèmes électroniques dans les élections. Un nombre croissant de pays africains se tourne en effet vers le vote électronique ou envisage de le faire. VOA Afrique a joint à Washington le chargé de programme Afrique auprès de la Fondation nationale pour la démocratie NED, Pierre Tanchou.
C'est difficile d'éviter ce genre de vote. Je sais qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont en train d'être faites sur le système électronique en ce moment pour rendre la tâche plus difficile pour ceux qui veulent truquer le vote. Mais je dirais que la première des choses, c'est déjà la transparence des institutions. Même si les machines électroniques ne peuvent pas être fiables, tout comme nous l'avons vu au Kenya, s'il y a des institutions transparentes, les erreurs seront revues, seront dénoncées. dénoncé par les institutions qui sont supposées le faire. Donc je pense que comment empêcher la tricherie à un certain niveau, même dans les pays de l'Ouest, s'il y a la tricherie dans les élections, c'est difficile à faire, mais du moment qu'il y a un système en place qui est supposé marcher, supposé surveiller ce genre de vote, je pense que ce sera toujours bien.
Pierre Tanchou de la Fondation nationale pour la démocratie à Washington. Au Nigeria, 19 personnes ont été kidnappées dans le sud-est pétrolier par des hommes armés. Ces personnes étaient à bord d'un bus intercepté près de cette grande ville pétrolière de Port Harcourt, faisant suite à une série d'enlèvements ces dernières semaines. Selon le porte-parole de la police de l'état de Rivers, les policiers ont réussi à libérer 12 des victimes depuis que l'attaque s'est produite. Le gouvernement ivoirien a accusé hier des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo de tenter de déstabiliser le pays à travers une série d'attaques à main armée. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a qualifié d'instigateur d'un projet de déstabilisation Stéphane Kipré, gendre de l'ex-président, et Picasso Damana, un ex-responsable du mouvement des jeunes patriotes. Les deux hommes vivent en exil. Les enquêtes après les 7 attaques à main armée ont conduit à l'arrestation de 35 personnes selon le ministre de l'Intérieur. Parmi les 35, 6 militaires et 7 civils présentés comme des miliciens. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a ajouté que le projet de déstabilisation implique des responsables politiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux, a-t-il précisé. Sidiki Diakité a fait ses déclarations après un Conseil national de sécurité extraordinaire tenu au palais présidentiel. La question de la sécurité demeure en Côte d'Ivoire avec des mutineries, des attaques contre les postes de police et de gendarmerie et une série d'évasions de prisonniers. Hier, le principal axe routier dans le nord de la Côte d'Ivoire, menant vers le Burkina Faso et le Mali, a été bloqué plusieurs heures par des habitants de la région. Ils protestaient contre les attaques répétées sur les routes.
Le président sénégalais Macky Sall a nommé hier un nouveau gouvernement marqué par des changements au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et par la création d'un département du pétrole. Le nouveau gouvernement compte, comme le précédent, 39 membres, dont 8 femmes contre 6 auparavant. Ce remaniement intervient plus d'un mois après les législatives gagnées majoritairement par la mouvance présidentielle. Au Gabon, 16 partisans de l'opposant Jean Ping ont été placés hier en détention pour attroupement non armé ayant troublé l'ordre et la tranquillité publique. Ils ont été arrêtés lundi à marge d'un rassemblement de l'opposition à Libreville. Une dizaine d'autres étaient encore entendus par la police. Le ministre de l'Habitat, Bruno Ben Moubamba, a été écarté du gouvernement. C'est l'un des symboles du dialogue et de l'ouverture voulu par le président Ali Bongo Ondimba après sa réélection contestée il y a un an. Depuis sa nomination, cet ancien journaliste et philosophe de formation avait agacé ses collègues de l'exécutif par son franc-parler, dénonçant par exemple ce qu'il considérait être des pesanteurs de son administration.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Décret anti-immigration de Donald Trump. La Cour d'appel de San Francisco dans l'ouest des États-Unis a infligé hier un nouveau revers à l'administration Trump. Elle a autorisé notamment l'accès au territoire américain à certains réfugiés. La décision pourrait donc débloquer l'entrée de quelque 24 000 réfugiés dont les demandes d'asile ont été longuement examinées et validées. Le passage de l'ouragan Irma a commencé à provoquer des inondations et a fait ses premiers blessés dans le nord-est d'Haïti et menace désormais la République dominicaine et Cuba avant la Floride. Troisième jour de la visite du pape François en Colombie, le souverain pontife a appelé à fuir toute tentation de vengeance et à chercher la paix sans répit dans ce pays en voie de pacification après plus d'un demi-siècle de guerre. L'armée russe a affirmé aujourd'hui avoir tué plusieurs responsables de l'organisation État islamique, dont l'émir de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie. L'armée syrienne a accusé Israël d'avoir mené hier des frappes aériennes contre l'une de ses infrastructures, faisant 2 morts. Cette attaque a visé un site utilisé par le régime pour produire des armes chimiques. Page sportive pour clore ce journal. Le foot anglais en éclaire sur un mercato qui se finit plus tôt. Les leçons du marché des transferts achevés cet été sont tirées. Les clubs de la puissante première ligue anglaise se sont accordés hier pour clôturer leur mercato avant la reprise du championnat. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza vous souhaite de passer une agréable journée.